Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous vous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Bonjour à tous encore une fois. C'est une joie d'être ici, de louer le Seigneur. Et maintenant, on va écouter la parole. Et je prie que cette parole puisse parler à vos cœurs. Que cette parole puisse vous édifier. Vous bénir profondément. Que cette parole vous amène à découvrir quelque chose de nouveau pour votre vie. Amen. Vous savez, on connaît beaucoup de choses, n'est-ce pas? Parce que dimanche après dimanche, jeudi, mercredi, on est toujours avec la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui est mis en évidence et en numéro un dans cette église. Mais il y a différentes façons de connaître. Amen. On peut connaître avec sa tête beaucoup de choses, beaucoup de versets. Mais maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous vivez dans la plénitude de ce que vous avez entendu? Et je ne vous demande pas de répondre, je vais répondre à votre place. Et la réponse, ce n'est pas encore. Amen, ce n'est pas encore. Parce que si c'était le cas dans tous les domaines, vos vies seraient différentes. Mais pas à pas, petit à petit, que les choses que vous entendez puissent amener véritablement des choses de Dieu puissantes dans vos vies. Parce que nous avons un Dieu puissant.
Amen.
Et la question, ce n'est pas d'écouter seulement avec ses oreilles.
Mais
la question, c'est d'écouter avec son cœur. Et après, quand on rentre à la maison, de se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai entendu? Est-ce que tu vas être comme les personnes qui ont un cœur comme le bord du chemin? Les oiseaux viennent et mangent cette semence. Ou la reçois-tu d'abord avec joie? Et à la première tribulation, tu oublies? Ou est-ce que ce sont les soucis de la vie, les richesses, les plaisirs de la vie qui prennent le dessus? Et qui font que cette parole ne va pas produire de fruits qui vont arriver à maturité? Ou es-tu quelqu'un qui, ayant un bon cœur, reçoit la parole et écoutez bien et porte du fruit avec persévérance? Vous savez, parfois il y a des choses qui se passent, il y a des personnes qui sont comme des étoiles filantes. On a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose. Ils montent très haut et très vite. Et ils disparaissent. Et on ne les voit plus. Et on n'en entend plus parler. Vous savez, ne méprisez pas les petits commencements. Et sachez que ce que vous êtes aujourd'hui, si vous recevez la parole et que vous lui permettez de produire du fruit dans vos vies, dans un an, 5 ans, 10 ans, vos vies seront complètement changées. Le changement, ça prend du temps. Dis à ton voisin, le véritable changement prend du temps.
Le véritable changement prend du temps.
Amen.
Amen.
Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne comprend pas bien.
Que
l'on pense comprendre, mais qu'en réalité on ne comprend pas bien.
Et qu'on
a du mal à appliquer et mettre en pratique dans
nos vies.
Et c'est pour ça qu'il est important de laisser la place au Saint-Esprit. Parce qu'il nous donne la compréhension. Il nous donne la compréhension. Et il nous montre comment mettre en pratique ces choses afin qu'elles aient un résultat. Parce que ce qui vient de l'homme est simplement humain. Et on ne doit pas prendre cette parole au niveau de notre intelligence seulement. Mais on doit la laisser agir et travailler. Et produire le changement dans nos vies. Amen.
Amen.
Ça, c'est vraiment important.
Ce
matin, je veux encore parler du réveil. On a vu différents points. D'ailleurs, si vous avez une Bible Scofield, vous verrez que j'ai développé les 10 points qui ressortent dans le commentaire. Bien sûr, en rajoutant certaines choses. Et encore, bien sûr, aussi avec d'autres choses que nous allons voir, notamment aujourd'hui, puisque ce n'est pas fini. C'est le premier réveil qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Jacob se retrouve dans un point de sa vie
où
tout ce qui était ancien,
tout
ce qui est ancien
est
passé.
Et
je vous assure, l'apôtre Paul le dit lui-même.
Celui
qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées.
Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles.
Elles
le sont devenues dans le Seigneur. C'est une vérité. Mais il faut que ça le devienne dans nos vies.
Et qu'on
quitte le domaine de la simple vérité pour rentrer dans le domaine d'une profonde réalité.
Et
quand nous naissons de nouveau, notre esprit est recréé, notre esprit est parfait. Mais dans le domaine de notre âme, il y a beaucoup de choses qui doivent être guéries, qui doivent être purifiées, qui doivent être changées. Amen.
Amen.
Et l'image de la vie de Jacob, c'est un peu ça. Cet homme aimait Dieu. Il avait soif de Dieu. Il voulait Dieu. Il voulait les choses qui viennent de Dieu. Mais il avait un énorme problème. Cet homme, c'était un trompeur, un manipulateur et quelqu'un qui utilisait des moyens détournés. Et ça lui a coûté très cher. Ça lui a coûté plus de 20 ans de sa vie. Parce qu'il a trompé son père, il a été obligé de prendre la fuite. Il s'est retrouvé chez Laban qui est devenu son beau-père. Et il s'est fait tromper par cet homme. Sachez-le bien, celui qui trompe les autres sera trompé par plus fort que lui-même. Parce que ce que l'on sème, c'est ce que l'on va récolter. Et sachez-le bien, sur cette terre, il y a des gens qui sont plus intelligents que vous. Et tout le monde dit amen.
Amen.
Non, vous ne croyez pas? Vous pensez que vous êtes les gens les plus intelligents de la terre? Je sais que ce n'est pas le cas, amen. Donc je répète, sur la terre, il y a des personnes qui sont plus intelligentes que nous et tout le monde dit
amen.
Donc c'est pour ça que celui qui est menteur et trompeur va subir les mensonges et la tromperie de quelqu'un qui est plus intelligent
que lui.
C'est ce qui s'est passé pour Jacob. Il s'est fait tromper par son beau-père. C'est horrible, le jour de son mariage. Il épouse Rachel et il se retrouve avec Léa. Et ensuite, par rapport à son travail, au fruit de son travail,
et
lui qui pensait avoir tout gagné, il s'est retrouvé à avoir perdu beaucoup plus que ce qu'il n'a gagné. Et se retrouve au point de sa vie où Dieu va parler. Il va parler sur lui.
Oh,
alléluia.
Amen.
Il donne un nom nouveau.
Il
lui dit, tu ne seras plus appelé trompeur. Tu ne seras plus appelé supplanteur. Tu seras appelé Dieu a vaincu pour toi. Dieu a vaincu pour lui tous les effets de ses tromperies, de ses manipulations. Dieu a changé son nom. Pourquoi ? Parce que Dieu a changé son cœur. Et je vous assure que bien souvent, on est obligé de passer par un chemin de souffrance et de difficulté pour comprendre qu'on a besoin de changer. Amen.
Amen.
Parce que sinon, on est toujours en train de penser que c'est les autres qui ont besoin de changer. Et c'est vrai que les autres ont besoin de changer. Mais nous, avant toute chose, nous avons plus besoin de changer que les autres n'ont besoin de changer. Et il a fallu toutes ces années à Jacob pour comprendre ces choses. Et Dieu parle à son cœur. Et Dieu va amener le réveil. Et il lui dit, parce que le réveil est initié par Dieu. Dieu lui dit, lève-toi, monte à Bethel. Il est transmis par Dieu. Le réveil est transmis par Dieu. Parce que chaque homme, un jour ou l'autre dans sa vie, se retrouve dans une période de recherche, de soif. Ma vie ne vaut rien. J'ai tellement soif de Dieu. Je veux, parce que vouloir que les choses changent, ça c'est quelque chose de normal. Même les païens veulent que les choses changent. Ils veulent être plus à l'aise dans leur vie, ils veulent gagner plus d'argent, ils veulent avoir de meilleures situations, tout ça c'est normal. Et moi je parle du changement qui vient de Dieu, la réalisation, la compréhension. Non pas que nous avons tout échoué, parce que ce n'est pas le cas non plus, mais que les choses pourraient, dis à ton voisin, les choses pourraient être différentes. Maintenant la question c'est, le veux-tu? Elle pourrait être différente si Dieu avait dans ta vie la place de Dieu. Non pas la place que tu lui donnes, mais la place de Dieu véritablement dans tes pensées, dans tes raisonnements, dans tes émotions, dans ta volonté. Parce que c'est dans ces domaines-là, les domaines de notre âme, que Dieu a besoin de prendre la place.
Amen.
Amen. Si Dieu n'a pas sa place dans ces domaines-là, ce qui vient de notre esprit se trouve être bloqué. Ça coule, mais comme un tout petit filet. Alors que ça devrait couler comme un torrent. Amen.
Amen.
Et pour beaucoup de personnes, dire Seigneur, j'ai tellement soif. J'ai tellement soif de ta présence dans ma vie. J'ai tellement soif de ta révélation. J'ai tellement un désir d'être inspiré par toi. Parce que bien souvent, on essaye, frères et sœurs. Je pense que le mot essayer, c'est le mot national. J'ai essayé. Et souvent quand on dit j'ai essayé, ça veut dire que j'ai échoué. Quand on essaye, on n'est pas sûr de réussir. Et on trouve le mot essayer comme le fait de s'excuser. J'ai essayé, mais je savais que ça ne marcherait pas. Et je veux que nous arrêtions d'essayer. Mais qu'on laisse la place à Dieu pour qu'il nous fasse réussir. Parce que là où on manque de sagesse, il y a une sagesse divine. Là où on manque d'inspiration, il y a une inspiration qui vient du Saint-Esprit. Là où nos capacités sont insuffisantes, il y a une capacité qui vient de Dieu. Et seulement un homme brisé peut comprendre ces choses. Amen.
Amen.
Et si tu te dis ma vie est brisée, tu es dans une bonne position pour voir le réveil. Mais tant que tu es dans ton autosuffisance, tant que tu es dans tes capacités personnelles, tant que tu es dans tes désirs, dans ton intérêt, dans de l'orgueil, dans de l'arrogance, dans je ne sais trop quoi d'autre, tu n'es pas dans une position où tu pourras voir le réveil qui vient de Dieu. Nous avons vu aussi que le réveil implique l'abandon de ce qui déplaît à Dieu. Vous savez, il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. Et il y a des choses pour lesquels Dieu ne dit rien en particulier.
Amen.
Mais la religion en a fait des choses qui, soi-disant, déplaisent à Dieu et qui tiennent les hommes et tout particulièrement les femmes dans des sortes de liens particuliers. Quand on dit, par exemple, il ne faut pas s'habiller comme ça, il ne faut pas manger comme ça, il ne faut pas porter de bijoux, il ne faut pas porter de chaussures comme ça, c'est de ça dont je parle. Pour vous donner un exemple,
amen.
Ça, ce sont des choses que les hommes prétendent qui déplaisent à Dieu et pour lesquelles Dieu ne dit rien en particulier. La chose que Dieu dit en particulier par rapport à la tenue vestimentaire, c'est d'être décente, mesdames, premièrement, et deuxièmement, comme c'est la saison, je vais utiliser ça, ne pas ressembler à un sapin de Noël. Amen. Amen. Donc, c'est l'abandon des choses qui déplaisent véritablement à Dieu, sans se trouver des raisons, sans se trouver des prétextes, sans se trouver des excuses.
Ce
n'est pas de ma faute. C'est la faute de ma famille. C'est de la faute de l'économie. Si je suis comme ça, c'est à cause de ci ou à cause de ça. Il faut bien quand même se protéger. Il faut bien quand même se tirer de situations difficiles. Et on se trouve des raisons et des prétextes pour désobéir à Dieu et de désobéir à sa parole. Comme je vous disais, il y a des choses que la parole, dont la parole de Dieu parle spécifiquement. Excusez-moi, c'est parce qu'elles sont importantes. Et il y a d'autres choses dont la parole ne dit rien du tout. C'est parce qu'elles ne le sont pas.
Amen.
Donc l'abandon de ces choses. Un temps de purification. C'est un retour à l'obéissance, à la volonté révélée de Dieu. L'obéissance à la volonté révélée de Dieu. Sans discussion des suiveurs. Parce que Jacob n'était pas tout seul, il était avec un groupe de personnes. Et Jacob parle. Il parle de la part du Seigneur. Parce que Dieu parle à Jacob Et Jacob parle aux personnes avec qui il est.
Et
il dit, voilà ce que nous allons faire. Et personne ne va argumenter. Personne ne va dire, de vouloir mettre son grain de sel, dire, mais il faudrait qu'on fasse comme si. Ou faire comme ça. Le réveil évoque le souvenir des bénédictions passées. Se rappeler les bienfaits de Dieu. Les fois où il t'a protégé. Les fois où il t'a béni. Les fois où il t'a exaucé. C'est aussi une nouvelle révélation de la personne divine. On a vu ça. Le renouvellement des promesses de Dieu. Vous savez, quand on lit dans l'Ancien Testament tout particulièrement, la vie des hommes de Dieu, les personnes qui ont marché avec Dieu de tout leur cœur, ça peut commencer avec Abraham, on le voit avec Moïse, on le voit avec David, différentes personnes. On voit que Dieu fait des promesses. Amen. Fait des promesses au début de leur vie. Dans les premiers temps où Dieu se révèle, Dieu fait des promesses. Dieu montre des choses. Et dans les temps de réveil, parfois, des choses auxquelles on ne pense même plus vraiment parce que ça ne s'est pas encore produit. Et Dieu revient et te parle encore. Et te dit, ce que je t'ai dit, je l'ai dit. Et ça nous donne du courage. Amen.
Amen.
Vous savez ce qui donne, écoutez bien, ce qui donne de la valeur à notre vie, c'est la manifestation des promesses qu'il nous a faites. Ce qui donne de la valeur à notre vie, c'est quand les promesses que Dieu nous a faites se réalisent. Amen.
Amen.
Quand ces choses se réalisent, cela donne tellement de valeur à notre vie. Parce que c'est la manifestation de la promotion divine. Vous savez, quand on a une promotion au travail, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Ça encourage, ça donne une certaine valeur à notre vie, un petit peu plus. Amen. Mais quand tu vois la manifestation de la promotion de Dieu, ça donne vraiment de la valeur à ta vie. Et tu te dis, mais Seigneur, tu m'avais parlé de cette façon de telle et telle manière. J'ai marché avec toi tous ces jours-ci. Et aujourd'hui, de mes yeux, je vois. Je vois la réalisation de tes promesses. Et je vous assure que ça amène un feu. Un feu dans notre cœur. Amen.
Amen.
Nous allons voir maintenant le dernier point, c'est qu'un réveil est presque toujours marqué par un nouveau zèle pour offrir à Dieu des sacrifices. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament, on ne va pas offrir des sacrifices. On
ne
va pas offrir des sacrifices d'animaux. Lisons ensemble Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 parle des sacrifices que nous sommes appelés à offrir à Dieu. Et quand ça se manifeste, ça montre vraiment que nous sommes dans un temps de réveil. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen.
Abaroma 12:1 mbere nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibimaze bizima byera bihimbara Imana niko kwikorera kwanyu kugira ikimazi. Amen.
Qu'est-ce qu'est-ce que je peux faire pour Dieu?
Et
quand on dit qu'est-ce que je peux faire pour Dieu,
c'est
la question que nous devons poser,
dans
laquelle nous personnellement,
nous
ne donnons pas de réponse.
Parce
que comment est-ce qu'on peut dire,
voyez,
je suis avec Nina, Nina, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Et
je n'attends pas de réponse.
Et
brusquement, je vais faire une chose, je vais faire autre chose.
Et
encore une chose. Et Nina, elle va me regarder.
Elle
va me dire, mais pourquoi tu t'agites comme ça?
Pourquoi
est-ce que tu fais ça pour moi? Je n'ai pas besoin de ça.
Pourquoi
est-ce que tu me donnes ça? Je ne t'ai pas demandé
ça.
Je sais que ce n'est pas en principe très populaire.
Parce
que généralement, les gens ne sont pas habitués à dire ce qu'ils
pensent. Ils
vont penser, mais pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Pourquoi est-ce qu'il me donne ça? Pourquoi il s'agit dans tous les sens?
Mais
ils
ne
vont pas le dire, ils vont juste dire, merci, merci.
Vous
vous rappelez de cette histoire dans Luc chapitre 10, verset
38?
On voit Jésus qui vient dans la maison de Marthe et de Marie.
Et
Marthe est en train de s'agiter dans tous les sens.
Elle court
à la cuisine,
elle
amène un verre d'eau peut-être. Après elle se dit, oh j'ai oublié de balayer ici, il y a Jésus qui est là, je me dépêche, je balaye.
Et après elle se dit,
peut-être que Jésus a faim,
vite,
je vais préparer quelque chose à manger. Donc elle est en train de vouloir faire des choses que Jésus ne lui a pas demandé.
Et
elle s'agite. Elle se fatigue.
Vous
savez, quand on s'agite,
5
minutes, ça va. 10 minutes, ça va encore.
Mais
quand on s'agite pendant des heures et des heures, au bout d'un moment, on est là.
Je
suis fatiguée. Et pour certaines personnes, t'as besoin d'arriver au point où t'es tellement fatiguée que tu vas devoir t'asseoir là et attendre un petit peu de récupérer.
On
voit Marthe qui s'agite, qui s'agite, qui s'agite, qui s'agite.
Et on voit Marie
qui s'assoit au pied de
Jésus.
Elle se dit, Jésus est là.
Quelle
joie.
Quelle
bénédiction. Quelle grâce. Je vais écouter. Je vais recevoir. Parce que j'ai tellement besoin de lui. J'ai tellement besoin de sa parole. J'ai tellement besoin d'une direction. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'une parole de vie. J'ai besoin d'une parole de grâce. J'ai besoin de savoir. De comprendre à propos de telles choses. Et Jésus dit, elle a choisi la bonne part. Offrez à Dieu vos vies comme un sacrifice. Offrez-lui votre vie avec ce cœur qui dit, Seigneur, ce que tu veux et non pas ce que je veux. Et vous allez me dire, je ne sais pas ce que je veux. Alors je vais te répondre, ça tombe bien. Parce que vous savez, quand on sait ce qu'on veut, souvent notre volonté est un obstacle. Parce qu'on veut tellement, quand on veut tellement quelque chose, on va se persuader par tous les moyens que ce que l'on veut, c'est ce qu'il faut.
Il
y a même des personnes qui se séduisent elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles disent que ce qu'elles veulent, c'est ce que Dieu veut. Et il parle de la part de Dieu. Dieu m'a dit que, alors que Dieu n'a rien dit du tout.
Amen.
Quand on ne sait pas ce qu'on veut pour notre avenir, on est quelque part dans une position plus facile parce qu'on est prêt à écouter Dieu et à lui dire, Seigneur, moi je ne sais pas vraiment quoi faire avec ma vie. Je n'ai pas beaucoup de talent, je n'ai pas beaucoup de capacités. Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je ne sais même pas vraiment bien parler aux autres, avoir un langage compliqué, élaboré, fleuri. Je n'ai pas toutes ces choses. Mais j'ai un cœur qui t'aime. Et je te dis, me voici, Seigneur, devant toi, pour faire ce que tu veux. Même si je ne suis pas capable, toi tu es capable. Il vous a rendu capable d'avoir part à cet héritage. Et cet héritage, ce n'est ni de l'argent ni de l'or. Amen. D'ailleurs, ça vaut mieux. Parce que quand on reçoit un héritage en argent, en nature, en argent ou en or, au bout de quelque temps, c'est épuisé. Qui sait de quoi je parle à part moi? Un héritage, au bout d'un moment, c'est épuisé. Tu reçois quelque chose, après, c'est épuisé. Mais l'héritage que nous avons reçu de Dieu est inépuisable. C'est une capacité surnaturelle à mettre en pratique les lois du royaume de Dieu et les faire fonctionner en notre faveur. Amen.
Amen.
Et ça ne concerne pas seulement les biens naturels,
ça
concerne tous les domaines de notre vie et tout particulièrement le domaine dans lequel nous avons été appelés à servir Dieu. C'est quelque chose d'inépuisable et c'est quelque chose, écoutez bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous voler. Ton héritage en argent, on peut te le voler. N'est-ce pas? On peut te le voler. Moi, je sais de quoi il s'agit. Ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est complètement égal, d'ailleurs. Mais l'onction de Dieu, personne ne peut te la voler. Et cette onction te donne une capacité qu'aucun homme, aucune femme ne peut reproduire dans le domaine du naturel. Offrez vos vies en sacrifice et je veux revenir à cela. Parce que quand tu te donnes à Dieu, quand tu te mets à sa disposition, peu importe tes capacités naturelles, peu importe ta couleur, peu importe ton origine, peu importe les choses qui sont avec toi ou qui sont derrière toi, tu te mets là où Dieu veut et là où il peut utiliser ta vie pour la gloire de son nom. Parce qu'être utilisé par Dieu, c'est ce qui nous donne de la valeur. Et en fait, dans les temps de réveil, il y a cette compréhension où tu ne vis pas juste pour toi-même, pour des choses qui sont médiocres, qui sont banales, qui sont répétitives et qui sont ennuyantes. Vous savez de quoi je parle? Vous savez, la vie sur cette terre, la vie sans Dieu, elle est banale. Elle n'est pas extraordinaire. Elle peut parfois être intéressante, mais en aucun cas passionnante. Amen. Amen.
Amen.
Intéressante peut-être soit, mais pas passionnante. Et dans les temps où il n'y a pas de réveil,
on voit que
chacun essaye de vivre pour lui-même. Comme on dit en français, on essaye de retirer son épingle du jeu, de se faire une vie quand même où ça peut fonctionner. Où il n'y a pas vraiment beaucoup de zèle pour venir à l'église. Vous savez, dans les temps de réveil, et ça c'est quelque chose que je vois, il
n'y
aura même plus de, place sur les parkings. Et si les gens ne viennent pas une heure ou deux heures avant la réunion, ils ne pourront pas rentrer ici. Je vous dis quelque chose de vrai, vous le verrez de vos yeux. Et surtout, faites attention de ne pas dire, mais si Dieu fait des fenêtres au ciel, est-ce que ça arrivera? Parce que moi, je risquerais de vous répondre, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Sérieusement. Dans les temps de réveil. Les gens courent. Ils ne marchent pas, ils courent. Parce qu'ils veulent Dieu. Ils ont soif de Dieu. Ils ne courent pas pour voir des miracles. Parce que courir pour voir des miracles, ça c'est vraiment l'esprit de la foule. La foule qui suivait Jésus. Juste pour voir si Jésus allait faire un miracle aujourd'hui. Des gens qui n'avaient aucune fidélité, aucune compréhension, aucune loyauté envers Jésus. Ils voulaient voir et écrit Hosanna, Hosanna. Et le lendemain écrit crucifie-le. Ça c'est l'esprit de la foule. La foule qui est incapable de se faire une opinion pour elle-même, de prendre une décision pour le Seigneur et de rester derrière lui quoi qu'il arrive. Seigneur, je suis avec toi quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, quoi qu'on me fasse, je suis derrière toi Seigneur, je marcherai avec toi même si ça me coûte la vie, même si ça me coûte des persécutions, même si ça me coûte des critiques, je serai avec toi, je marcherai avec toi, je resterai avec toi.
Amen.
Il y a la foule qui veut voir.
Et
il y a le cœur de celui qui veut suivre.
Amen.
Dans les temps de réveil, il y a un temps de consécration où tu viens à l'église, même si tu es fatigué, parce que tu sais qu'au moment où tu franchis cette porte, la fatigue part. Tu viens à l'église parce que tu as soif de Dieu, parce qu'il y a la gloire et la présence de Dieu qui sont là. Et tu ne dis pas, oh ben non, aujourd'hui c'est le jour où je fais du sport, alors je ne viens pas à l'église. Ou, ben non, je dois aller voir tel, alors je ne viens pas à l'église. Ou je suis fatigué. Ou, bah, ce soir, il y a quand même un bon film à la télé, alors je viendrai la prochaine fois. Non, il y a une prise de conscience, un désir, une soif d'offrir à Dieu, de se tourner vers Dieu, de mettre Dieu au milieu, au centre. Quand je dis au milieu, c'est au centre. Et on le voit encore et encore et encore au travers de la parole de Dieu. Vous savez, quand le peuple d'Israël ne marchait pas avec Dieu, ils étaient harcelés, attaqués par l'ennemi. Je répète, quand le peuple d'Israël ne marchait pas avec Dieu, ils étaient harcelés, attaqués par l'ennemi. Ils étaient humiliés. Ils étaient dans la défaite. Dans les temps de réveil, tu seras harcelé par l'ennemi, mais pas pour vivre des temps de défaite, pour vivre des temps de délivrance, pour vivre des temps de gloire et pour vivre des temps de victoire. Regardons ensemble pour ce qui concerne le roi Asa dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 15. Deux Chroniques, chapitre 15. Et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 2 Chroniques 15, voilà. À partir du verset 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, c'est un prophète. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. » L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, Fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen.
Ingoma ya kabiri gice 15 umurongo wa mbere maze muhemu w'Imana aza kuri Azariya mwene Odedi aja gusanganira Asa aramubarira ati nimutega amatwi yewe Asa mwe n'abayuda n'abanyamini mwese Uhoraho azokomeza kubana namwe nimwakomeza kubana nawe kandi nimwamurondera muzomubona ariko nimwamuheba nawe azobaheba erega igihe kirekira abisirayeli bamaze batagira imana nyakuri batagira abaherezi bo kubigisha badafise n'ivyagezwe ariko bashitsweho n'ivyago bahindukira Uhoraho imana y'abisirayeli baramurondera baramubona kandi muri ico gihe nta mutekano wariho ngo umuntu agire aho yocarukira kuko haba imivurungano myinshi mu bantu bose baba muri ivyo bihugu bakagenda bavurugana ihanga ritera irindi ihanga igisagara gitera ikindi gisagara kuko Imana yagenda ibavurungisha ibyago by'uburyo bwose ariko mweho mushikame amaboko yanyu ntadende bukigwe kuko ibikorwa byanyu muzobihergwa ingero amen
et vous pourrez lire jusqu'au tout le chapitre d'ailleurs quand vous êtes chez vous et vous allez voir quoi eh bien quand il n'y avait pas Dieu quand Dieu n'avait pas sa place ils étaient sous l'oppression. Ils étaient assujettis. Ils étaient vaincus par les ennemis. Mais en revenant à Dieu, en revenant à Dieu de tout leur cœur, ils ont vu la main de Dieu. Et ensuite, ils se sont levés. Tous ensemble. Pas un seul. Tous ensemble. Ils se sont levés pour Dieu. Pour offrir des sacrifices à Dieu. Pour offrir leur vie. Pour se consacrer à Dieu. Ça, c'est ce qui marque le réveil. Un temps de consécration. On le voit dans la vie du roi Joas.
Pour
lire 2 Chroniques, chapitres 34 et 35. On le voit aussi à Ninive. Dieu envoie Jonas, le prophète Jonas à Ninive. Cette ville se repent. Et ils vont offrir à Dieu des sacrifices. Ils vont se tourner vers Dieu. On le voit du temps de Zorobabel. On le voit du temps de
Néhémie.
On le voit dans les actes. Parce que l'église dans les actes commence avec le réveil. Vous voyez, ce n'est pas l'église qui naît, l'église qui est affaiblie, l'église qui périclite et ensuite l'église qui se réveille. Parce que dans les actes, on voit le Saint-Esprit qui descend sur l'Église qui vient de naître. Amen. On voit l'Église qui vient de naître puisque Jésus, après sa résurrection, va souffler sur les disciples. En réalité, il souffle en eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et on voit la naissance donc de l'Église juste après dans les actes des apôtres. On voit le Saint-Esprit qui descend sur eux. Et il y a quelque chose à propos donc des sacrifices. On va lire,
puisque
on va clôturer cette partie maintenant.
Et
dans Actes chapitre 2, verset 45, on voit l'Esprit qui anime les chrétiens dans le temps du réveil. De quel esprit sont-ils animés? En tout cas, ils ne sont pas animés de l'esprit dont le pasteur parlait tout à l'heure, le pasteur Olivier. Il y a certaines personnes qui savent ce qu'ils vont faire avec votre argent, n'est-ce pas? Et qui vous disent, voilà, tu as de l'argent, donc on va faire ce projet. N'étaient pas animés de cet esprit, mais alors pas du tout. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Acte 2, 45.
Amatongo yabo n'ibintu byabo barabigura bakabigabangana bose nk'uko umuntu wese akenye.
Vous allez me dire, mais pourquoi ont-ils fait Aurait-il dû faire de telles choses? La raison pour laquelle il faisait ça, c'est que quelques jours avant, Jésus est ressuscité, monte au ciel, il leur donne donc une mission, et il pensait que Jésus allait revenir dans 6 mois ou un an. Parce qu'ils se sont dit, bon, notre mission, c'est d'évangéliser. Et certainement que toucher le monde entier ne va pas prendre une éternité. Donc, ils se disaient, pourquoi nous embarrasser de tous ces biens alors qu'on pourrait les vendre, en profiter et se bénir les uns les autres, puisque Jésus va revenir dans 5 minutes. Sauf que Jésus n'a jamais dit qu'il allait revenir dans 5 minutes. Et ils se sont trompés. Ils ont fait une erreur. Amen. Ils ne sont pas les seuls. D'autres, plus tard, ont prédit le retour de Jésus et se sont trompés. Parce que Jésus a dit clairement que la date de son retour ne serait pas annoncée.
Amen.
Donc nous devons vivre sur cette terre comme si Jésus allait revenir dans 10 générations, tout en vivant sur cette terre comme si Jésus doit revenir dans 5 minutes.
Amen.
Donc l'erreur qu'ils ont faite, c'était de vendre tous leurs biens. Et quelques années plus tard, l'église de Jérusalem s'est retrouvée dans la plus grande pauvreté. Donc on ne doit pas reproduire cette erreur, bien évidemment. Mais par contre, on doit reproduire leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas un cœur attaché au bien de ce monde. Vous savez, être riche, vouloir produire des richesses, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que chacun a son appel.
Amen.
Chacun a son appel. Et nous ne sommes pas tous appelés à devenir des businessmen ou des gens extrêmement riches sur cette terre. Certains peut-être, et certainement d'ailleurs pour soutenir entre autres l'œuvre de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous appelés à cela. Parce que nous n'avons pas tous forcément ce désir dans notre cœur. Moi, personnellement, je n'ai pas ce désir, mais alors pas du tout. Absolument pas. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de vivre dans la pauvreté, parce que de toute façon, la parole de Dieu est claire. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Amen.
Et ça,
moi, ça ne m'intéresse pas de devenir milliardaire, mais alors pas du tout. J'ai dit milliardaire. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'onction. C'est la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est de recevoir des nouvelles lumières par rapport à sa parole. Ça m'intéresse. C'est de pouvoir prier pour les malades et voir les malades guéris. Ça m'intéresse. De pouvoir prêcher, de voir des âmes sauvées. Ça m'intéresse. Parce que ça me donne du crédit dans le ciel. Maintenant, des milliards et des milliards... Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis née avec rien et je ne les emporterai pas avec moi dans le ciel. Dormir dans une maison 7 étoiles ou dormir dans une maison normale, une maison normale, ça me suffit. Conduire une voiture normale, ça me suffit. Je n'ai pas besoin du Land Cruiser avec les pare-chocs en or.
Vous
voyez, on a tous un appel différent pour notre vie. Et bien sûr, c'est mieux que les richesses de ce monde soient dans les mains des chrétiens, à condition que les chrétiens finance l'œuvre de Dieu. Parce que s'ils ne financent pas l'œuvre de Dieu, ils sont comme les païens. Ils gardent tout pour eux-mêmes. Amen.
Amen.
Donc ici, on voit le cœur. Le cœur des chrétiens qui sont dans l'esprit du réveil. Ils ne sont pas attachés aux choses. Je parlais avec quelqu'un récemment à propos de du travail. On se disait, en parlant de notre position sociale, financière sur cette terre. Même la personne la plus riche du monde, elle peut perdre tout son argent, tous ses biens, le même jour. Il y a un homme dans la parole de Dieu à qui c'est arrivé. Cet homme, il s'appelle Job. Le même jour, il a perdu tout son argent, tous ses biens et toute sa famille. Il a tout perdu, tout le même jour. C'est pour ça, ne vous attachez pas à ces choses. Parce qu'il y a une chose que vous ne perdrez jamais. Et d'ailleurs, ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est le Seigneur. Tu ne le perdras jamais. Les choses de cette vie, tu peux les avoir aujourd'hui, tu peux ne plus les avoir demain, et que ton cœur ne s'inquiète pas et ne se trouble pas. Ne vis pas pour les choses de cette terre, vis pour le Seigneur, comme c'était le cas notamment de tous ces saints de l'Église primitive. Vous pensez que Jésus allait revenir dans les 5 minutes, et ce n'était pas le cas. Ils ont fait des erreurs, mais leur cœur était bon. Amen. Donc on va parler maintenant, on va commencer la suite de ce que je suis en train de d'enseigner à propos du réveil, de cette série sur le réveil. On va parler des fruits du réveil. Parce qu'il ne faut pas confondre le réveil avec les fruits du réveil. Les fruits, on ne peut pas les produire et on ne peut pas les voir si on n'est pas dans les réveils. On peut prétendre, on peut faire semblant, on peut essayer de fabriquer des choses, mais il faut savoir que le réveil vient, d'abord ça vient dans le réveil, c'est dans l'Église. Le réveil, c'est pas dans le monde. Amen. Amen. Le réveil, c'est dans l'Église. L'Église doit être réveillée. Et à ce moment-là, quand l'Église est réveillée, les fruits du réveil vont aller jusque dans le monde. Donc, on va étudier un petit peu ce qui s'est passé pour l'Église primitive. Ils ont reçu Jésus dans Jean chapitre 20, verset 22. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à se réunir et à prier. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
Ils
étaient en train de persévérer dans la prière quand le jour de la Pentecôte est venu. Et écoutez bien, ce n'est pas leur prière qui a fait venir le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ce n'est pas parce que vous priez. Ce n'est pas parce que vous priez que vous ferez venir le réveil. Qui fait venir le réveil? C'est le Seigneur. Et ce n'est pas par vos prières que vous ferez venir le réveil, mais c'est par votre volonté de changer, de plaire à Dieu, de faire du ménage, du nettoyage dans vos vies et de lui laisser prendre sa place. Car Dieu doit être Dieu dans la vie de chaque personne. Ce n'est pas tes prières. Ce ne sont pas tes prières. Ce ne sont pas tes prières qui amèneront le réveil. Comme ce ne sont pas les prières des apôtres qui ont amené le jour de la Pentecôte. Vous allez me dire, mais pourquoi donc et comment donc? Vous savez, si c'était nos prières qui amenaient le réveil, vous verriez les gens se lever. Je suis, j'ai été l'instrument de Dieu.
Eh,
c'est pas toi, hein? C'est moi. C'est moi qui ai prié. C'est moi qui ai prié. Non.
Oh, yeah.
Le Saint-Esprit est l'initiateur de ces choses.
Amen.
Priez, nous devons le faire. Maintenant, je ne vais pas vous enseigner longuement sur de quelle façon on doit prier. Mais je sais que je dois dire au moins une chose là-dessus. Débarrassez-vous des prières inutiles. Amen. Débarrassez-vous des prières qui servent à rien. Oh Seigneur, tu vois que... Tu vois ce qu'il a dit. Tu vois ce qu'il a fait. Ô Seigneur, toi qui connais toutes choses, Dieu tout-puissant et fort dans le nom de Jésus, je prie pour que tu agisses, que tu interviennes dans cette situation, que tu fasses telle et telle chose. Et Dieu est là. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Mais je t'aime quand même. On doit prier et apprendre à savoir ce que Dieu veut faire. Et ne pas lui dire, Seigneur, tu as vu ci. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de journaliste.
Hein.
Il n'a pas besoin qu'on lui dresse des rapports des situations. Il les connaît mieux que nous. Il n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Oui, Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris le bus. Je n'avais que 500 francs dans ma poche, alors que le kilo de riz coûte 600 francs, Seigneur. Tu vois que j'avais un problème énorme. Mais Seigneur, quand je suis montée dans le bus, j'ai rencontré la sœur Marie. Alors je lui ai dit, Marie, tu sais, j'ai besoin de 100 francs. Le Seigneur t'a mis sur mon chemin. Parce que je dois acheter du riz. Et Seigneur, je te remercie parce qu'elle a accepté de me donner les 100 francs que je lui avais demandés. Dans le nom de Jésus, je glorifie ton nom. Et blablabli, et blablabla, et patati. Et voilà. Et patati et patata. Vous voyez de quoi je parle? Il est temps que nous persévérions dans cette prière. Seigneur, tout ce que tu veux, comme tu le veux. Tout ce que tu veux, comme tu le veux. J'ai besoin de le voir, j'ai besoin de le comprendre et j'ai besoin d'être changé pour y rentrer. Et je vous assure que les disciples, ils avaient ce genre de cœur. Parce que quelques jours avant, ils avaient tous pris la fuite et abandonné Jésus. Donc ils étaient parfaitement conscients de leurs faiblesses et de leurs erreurs.
Amen.
Et on va dire, oui, ils n'étaient pas nés de nouveau.
Et
moi, je vous dis que même s'ils étaient nés de nouveau, ils auraient peut-être pu faire de ce genre de choses. Parce que vous savez comme moi qu'aujourd'hui, les chrétiens nés de nouveau, ils sont loin de fonctionner dans la perfection, dans la loyauté et dans la fidélité. Donc, ils persévèrent dans la prière. Et il y a le Saint-Esprit qui descend. Qui descend sur eux. Ils étaient le jour de la Pentecôte, tous ensemble d'ailleurs. Et ils étaient dans la prière, ils n'étaient pas en train de boire un café.
Amen.
Ils n'étaient pas en train de faire une réunion de critique.
Vous
voyez ce genre de réunion
où
ils sont tous ensemble. Et puis, Pierre n'est pas là parce qu'il était occupé à autre chose. Et vous les voyez en train de parler
ensemble,
en disant vraiment Jean,
hein,
comme on dit ici, il est gang. Hein. Jean, il court vite. Hein. Le pauvre Pierre, il commence à se faire vieux. Hein. D'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui. Ils ont couru au tombeau et Jean est arrivé le premier. Le pauvre Pierre, il se fait vieux. Hein.
Plus
si vite que ça. Et puis tu te rappelles,
hein,
quand on est parti pêcher des poissons, tu vois, c'est Pierre qui nous avait dit de venir. Hein. On part pêcher, on n'attrape rien. Vraiment, Pierre, il se fait vieux.
Vous
voyez le genre de réunion. Ils n'étaient pas en train de parler comme ça. Hein. Ils étaient ensemble en train de prier, en train de chercher Dieu. Et il y a le Saint-Esprit qui descend. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen.
Amen.
C'était le temps. Ce n'est pas leur prière qui a fait venir le jour de la Pentecôte. Et ce ne sont pas tes prières qui feront venir le réveil. Parce
qu'il
y a des gens qui prient pour le réveil depuis 20 ans. Et qu'est-ce qu'on a vu? Pas grand-chose. Et tout le monde dit c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai?
C'est vrai.
Qui veut voir le réveil?
Alors
laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu nous parler. Laissons Dieu nous toucher. Laissons Dieu nous changer. Laissons-le descendre sur cette église, sur nos vies. Laissons-le être Dieu. Retire tes mains. Arrête de dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Retire tes mains et dis Seigneur tout ce que tu veux comme tu le veux. Et ça c'est le cœur qu'ils avaient. Et le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient dans la prière, ils furent tous remplis et ils parlaient. Regardez chapitre 2, acte 2 verset 11. Quelque chose de très important, frères et sœurs. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ça, c'est un fruit du réveil. Amen.
Amen.
Même si je le prends un petit peu hors contexte, parce que c'était le parler en langue, ils étaient en train de parler en langue, mais c'est quand même vrai. Dans les temps de réveil, on parle des merveilles de Dieu. Ça, c'est un fruit de ce réveil, parce qu'il y a quelque chose qui a changé au-dedans de nous. Et si quelqu'un commence à te parler de la météo ou de je ne sais quoi, tu lui dis, écoute, s'il te plaît, non, j'ai soif de Dieu, parle-moi de Dieu. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de ses merveilles. La météo, d'accord, mais non, parle-moi de Jésus. Le réveil change les sujets de conversation. Amen.
Amen.
Ça les change en profondeur. Ils parlaient des merveilles de Dieu, pas d'autre chose. Et surtout pas de critique. Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Parce qu'ils étaient ivres du Saint-Esprit.
Et on va
développer ça la prochaine fois, mais vraiment je veux vous donner cette soif. Non pas moi toutefois, parce que franchement je n'ai pas grand chose à donner, mais cette soif de la présence de Dieu. Parce que vous savez, parfois dans la vie, ça nous arrive à tous. Vous savez, quand on parle d'être ivre, là je ne parle pas du tout d'alcool, comprenez-moi bien. Mais parfois on est ivre de fatigue. N'est-ce pas? Moi je sais que quand je suis vraiment fatiguée, j'ai tendance à marcher comme ça. Je ne marche plus droit. N'est-ce pas? Et je pense que peut-être certains d'entre vous, c'est pareil. Des fois, on est ivre de fatigue. Des fois, on trouve des trucs là. C'est un, deux, trois. On est ivre de colère. Ou ivre de découragement. N'est-ce pas? Différentes choses selon les personnes, selon votre caractère ou selon les cas. On a besoin d'être ivre du Saint-Esprit. C'est là où on a conscience de Dieu, on a conscience du surnaturel plus que l'on a conscience des choses naturelles. Et je vous assure que c'est un miracle. Ça ne vient pas de nous. On ne peut pas le produire comme on ne peut pas produire la nouvelle naissance, comme on ne peut pas produire le baptême du Saint-Esprit. Et je vous assure que parler en langue, c'est une bonne chose. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais il y en a qui parlent en langue comme ça. Et s'ils ne parlaient pas en langue, ça serait tout aussi bien. Vous voyez de quoi je parle? Hein? J'ai pris mes clés dans la main parce que je n'ai pas de poche, mais vous savez, des fois, on est en train de faire n'importe quoi. Moi, je veux vraiment qu'on soit ivre du Saint-Esprit. Et que quand on parle en langue, ça descende. Amen.
Amen.
Que ça descende. Que ça nous remplisse. Que ça explose. Que ça amène vraiment quelque chose de puissant et de profond. Amen.
Amen.
Le Seigneur veut le réveil dans cette nation. Dans la vie de tous les hommes, pas seulement dans cette nation, parce que nous ne sommes pas les chouchous du Seigneur.
Amen.
Nous ne sommes pas les chouchous. Le Seigneur veut le réveil dans cette église. Non pas parce que nous sommes les chouchous, mais parce que ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que vous entendez la parole de Dieu sans compromis. Alors si au bout de 15 ans on n'est pas encore prêt, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on le sera. C'est pour nous. Amen. Parce que pendant 15 ans vous avez tout entendu, tout ce qui est nécessaire pour poser les bases pour qu'un véritable réveil puisse être manifesté.
Amen.
Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.